Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Écho de ma commune et de mon canton. Christophe Joubien pour vous accueillir. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Philippe Schmitt qui est maire du Thieulin et surtout président de... Alors je dis et surtout, je ne sais pas pourquoi, parce que maire du Thieulin, ça doit aussi beaucoup vous occuper. Président de la communauté de communes entre Beauce et Perche. Bonjour Philippe Schmitt.
Bonjour Christophe, merci de cette invitation et c'est toujours avec un réel plaisir que, en tant que responsable de collectivité, on peut participer à vos émissions pour faire connaître un petit peu mieux nos territoires.
Ouais, et c'est important aujourd'hui, je pense, parce que on sait que la situation des élus locaux est très difficile. La dotation de l'État baisse d'année en année. C'est devenu très difficile. Hein.
Alors, c'est depuis quelques années difficile, mais je dirais que les années que nous venons de traverser, et puis certainement l'année 2023, s'annonce encore un peu plus compliqué, ouais. Suite évidemment aux différents... sujet important, et notamment au travers de la crise énergétique, de l'inflation, ouais. Et aussi des difficultés de l'État à maintenir les dotations en direction des collectivités. Ouais. C'est effectivement des années très compliquées qui s'annoncent devant nous.
On va parler de ça tout à l'heure. On va parler surtout de la Comcom aujourd'hui. Alors, les communautés de communes, je suis allé sur Wikipédia, j'ai vu qu'elles avaient été créées en 1992. Elles jouissent de compétences élargies par rapport aux communes. Je pense qu'il serait peut-être bon de rappeler à nos auditeurs, en préambule, ce que c'est finalement qu'une communauté de communes. C'est plus qu'un assemblage de communes, c'est une structure bien particulière avec des compétences aussi bien particulières. Hein.
Alors effectivement, la communauté de communes, créée il y a bien longtemps maintenant, mais je dirais un peu plus récemment sur le département d'Eure-et-Loire, puisque nous avons fait partie des départements un petit peu, je dirais, à la traîne à la mise en place de ce type de collectivité. Je rappelle néanmoins que la communauté de communes se veut être le prolongement de la commune. Et on parle bien aujourd'hui, et d'ailleurs c'est comme ça que c'est appréhendé dans l'ensemble des lois qui sont produites. Ça entre dans le bloc communal qui intègre la commune et la communauté de communes. Donc on a les compétences maintenant, on va dire, partagées entre ce que pouvait avoir auparavant une commune et puis ce que peut exercer comme compétence aujourd'hui la communauté de communes. On n'a pas inventé de compétences nouvelles, on les a transférées. Et c'est aussi pour ça que c'est un partenariat intense entre nos communes et cette nouvelle collectivité qui maintenant est entrée dans le domaine public et il n'y a plus de sujet. Tout le monde sait ce que c'est que normalement une communauté de communes maintenant.
Ouais. Alors, si je compte bien, et je crois que vous regroupez 33 communes que vous présidez donc avec le concours de 7 vice-présidents et 5 conseillers délégués qui représentent bien évidemment la diversité du territoire. Alors, quelles sont les particularités du territoire que vous présidez, qui dit bien son nom, entre Beauce et Perche, c'est-à-dire, globalement, vous êtes au carrefour de la culture du blé et de l'élevage?
Alors, on peut le présenter comme ceci, mais effectivement, notre nom est vraiment... emblématique du territoire qui compose cette communauté de communes de 33 communes, puisque on a cette différenciation qu'on peut faire autour du blé et de l'élevage, mais on aurait aussi pu l'appeler en son temps, à sa création, au 1er janvier 2016, mais ça aurait été ambitieux, on aurait pu l'appeler la communauté de communes de l'Eure et du Loir, puisque on a aussi la particularité d'être sur deux bassins versants, donc sur celui de l'Eure et celui du Loir. Et puis, pourquoi aussi entre Beauce et Perche, en dehors de ces particularités, c'est que finalement, nous sommes, je dirais, entre deux bassins de vie, celui du Nogenté, et puis aussi celui qui nous concerne beaucoup plus aujourd'hui, tout ce qui est Chartrain, puisque notre bassin de vie aujourd'hui est intégralement tourné vers le bassin Chartrain, ce qui fait que ce entre Beauce et Perche a toute sa raison d'être, en fonction de notre organisation et puis de nos précédents, je dirais, modes de fonctionnement, ouais. Puisque on a aussi quelques communes qui dépendent de l'arrondissement de Nogent-le-Rotrou, et on a aussi, puisque c'était le premier point que vous émettiez dans cette particularité entre Beauce et Perche, des territoires qui sont un peu différenciés, avec d'un côté encore un certain nombre de haies, ce qui n'est plus le cas sur la partie est de notre territoire.
Ouais. Et sur une rivalité, enfin, à ton raison, on le pense, entre la Beauce et le Perche, c'est une vaste blague ou est-ce que...
Vaste blague, c'est pas le bon terme. En tout cas pour moi, c'est du passé.
Oui.
Aujourd'hui, le territoire, il est entre Beauce et Perche, mais il est aussi aurélien. Et aujourd'hui, on ne peut plus, je dirais, se permettre d'avoir ce genre de rivalité. On est tous attirés par les mêmes orientations et les mêmes difficultés. Et on travaille évidemment tous de concert pour que on puisse raisonner au mieux et traiter au mieux les différents sujets qui nous préoccupent.
Alors, on se dit, voilà, ouais, c'est un territoire rural, mais aujourd'hui, évidemment, la ruralité a complètement changé. Qui dit ruralité ne dit plus forcément paysannerie. Il y a moins d'agriculteurs qu'autrefois, et puis il y a de ce qu'on appelle les néo, ou les rurbains, je crois, c'est ça, les rurbains. Donc, c'est un territoire bien plus complexe qu'autrefois, évidemment, à gérer. Hein.
Bien sûr, il n'y a pas de surprise dans cette annonce. Effectivement, le métier d'agriculteur ou l'origine agricole de notre territoire, il est encore très pesant, mais avec une agriculture qui a beaucoup évolué, on parle plutôt aujourd'hui non plus d'agriculteur, mais de chef d'entreprise. Et aussi, comme je l'indiquais préalablement, nous sommes sur le bassin chartrain, avec aussi bon nombre de populations qui travaillent sur la région parisienne. Donc effectivement, on est sur un territoire où on a de plus en plus de gens, eu égard aussi aux quelques mois passés avec la situation sanitaire, où aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui arrivent de la région parisienne, qui viennent dans nos territoires, les dynamiser, mais aussi nous demander d'offrir des services un petit peu différents de ce qu'on aurait pu connaître par le passé.
Alors, quels sont ces services qui sont demandés, justement ?
Alors, le service principal qui est exercé lorsque j'évoque cette particularité, il est évidemment, en termes de besoins en direction de la jeunesse, des jeunes habitants venant sur notre territoire sont en attente de services performants, on va dire, de 0 à 18 ans. Donc nous, évidemment, on ne traite pas toute la partie éducation nationale et scolaire, où là, on laisse le soin, évidemment, à l'État de gérer toute cette partie en direction des jeunes. Mais ça se traduit en termes de besoins de crèches, besoins de multi-accueil, besoin d'accueil de loisirs sans hébergement et également d'information pour la préparation des jeunes, je dirais, à leurs futures études.
Et puis le sport, j'imagine, les équipements sportifs. Ça aussi, vous gérez les équipements sportifs
hein. Alors, ça fait partie de nos compétences, effectivement. Alors, c'est une compétence aujourd'hui qui reste encore partagée et on a laissé la liberté aux communes de piloter ou non leurs équipements sportifs. Donc, on a des exemples qui sont divers et variés. Si j'en prends deux, on a... Fontaine-l'Aiguillon, l'ensemble des équipements sportifs sont pilotés par la communauté de communes. Et à contrario, Illiers-Combray, l'ensemble des équipements sportifs sont pilotés par la commune. Et puis on a l'intermédiaire, Courville-sur-Eure, où on a un équipement gymnase intercommunal et un équipement gymnase piloté par la commune.
Les rapports entre, justement, gens d'ici et rurbains se passent bien parce qu'on se souvient que les premiers rurbains à être arrivés dans nos campagnes, surpris par le chant du coq, bien le supprimer. C'est une blague, là encore, ou est-ce que
ça existe ? Oui, c'est plutôt un modèle du passé. Certes, on a encore des fois quelques remarques. On entend... Que ce serait bien que la moissonneuse-batteuse, éventuellement, le samedi à 17h, elle quitte la parcelle pour éviter de faire un peu trop de poussière. On entend encore ce genre de choses, mais globalement, on a une forte évolution de ces nouveaux résidents qui savent ce que c'est que le métier d'agriculteur et qui, effectivement, aujourd'hui, s'adaptent et comprennent les particularités de chacun. Donc tout ça, ça se passe en bonne intelligence.
Ouais. Alors, vos attributions, je disais, sont nombreuses. Il y a l'eau, l'habitat, il y a un service public d'assainissement non collectif. Vous avez parlé de l'enfance et la jeunesse, le transport scolaire aussi, bien évidemment. Les équipements sportifs, les maisons de santé, on y reviendra tout à l'heure. Bon, pour financer tout ça, il faut évidemment, engranger des recettes conséquentes et, du moins, je le suppose, bénéficier d'un soutien actif de l'État. On le disait depuis François Hollande, donc l'État a réduit sa dépense vis-à-vis des collectivités locales, tout en leur demandant toujours autant.
Je reprendrai un peu vos termes quand vous dites on a besoin d'un soutien actif de l'État. Oui, la réponse est évidemment oui. Est-ce que c'est le cas? La réponse est plus,
Ah oui.
Comment je dirais, un peu moins affirmative. Nos ressources, c'est quoi aujourd'hui? Donc elles sont de différents types. On en a une qui était adossée sur la taxe d'habitation. Vous savez ce qu'est devenue cette taxe d'habitation. Donc on a une ressource en moins qui arrive chez nous, qui était une ressource conséquente, c'était la plus importante, et qui est substituée aujourd'hui par une compensation de l'État. À l'euro, au moment où la compensation s'est faite, et bien évidemment, vous avez bien compris que nous étions dans un territoire dynamique en termes d'arrivée de population, et que ce dynamisme de la taxe d'habitation, nous l'avons perdu dans nos recettes, puisqu'on nous compense bien, mais à date d'échéance du transfert et de la modification de la recette, ce qui fait qu'aujourd'hui, on perd cette évolution de taxe d'habitation. Oui. On a d'autres recettes significatives qui sont en lien avec les entreprises. Là encore, donc on perçoit une partie de la CFE, contribution foncière des entreprises, et nous percevions également une partie de la CVAE, contribution volontaire, contribution à la valeur ajoutée des entreprises. Et on a tous en tête qu'il y a eu une décision prise par le gouvernement de venir supprimer cette fameuse CVAE qui était aussi source de dynamisme sur notre territoire, puisqu'on porte, comme l'ensemble des intercommunalités, la compétence développement économique. Donc ce produit ressources va disparaître au profit d'un montant de prélèvement sur la TVA. Donc on attend pour savoir comment on pourra avoir cette compensation. Et dans les temps que nous allons rencontrer prochainement, pour que les recettes de TVA soient dynamiques, il faut que la consommation reste dynamique, que la croissance du pays reste positive. Je suis moyennement optimiste pour les mois qui viennent.
Ça veut dire que vous vous préparez, d'une manière ou d'une autre, à ces prochains mois. Crise énergétique, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est important, évidemment. Et crise économique.
Alors, je n'emploierai pas ce terme de crise économique. Pourquoi je ne l'emploie pas? Parce qu'aujourd'hui, finalement, on a la chance d'être dans un pays où l'économie reste résiliente et où les entreprises aujourd'hui sont encore porteuses de projets. On rencontre bien évidemment, et on l'a tous en tête, hein, les problématiques autour d'artisans ou de commerçants très spécialisés, consommateurs d'énergie qui vont avoir beaucoup de mal à passer la période qui s'annonce devant nous.
Les boulangers, c'est important dans des zones rurales d'avoir un boulanger, évidemment, pas être obligé de faire 50 km pour aller chercher du pain, quoi.
C'est vrai. Donc on espère que les mesures récemment annoncées permettront de faire passer le cap à ces commerçants qui restent, et vous faites bien de le rappeler, des commerçants de proximité, importants pour l'animation du territoire. Donc on y est aussi attentif dans le cadre de l'exercice de notre compétence commerce. Mais c'est vraiment des sujets qui nous préoccupent beaucoup aujourd'hui. Ouais.
Radio Grand Ciel.
On parle du développement économique. Or, donc ça fait partie de vos prérogatives, vous avez ouvert, parmi les créations donc, de la communauté de communes entre Beauce et Perche, un hôtel des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, donc la particularité de la structure que nous avons mise en place il y a maintenant plus de 10 ans, est un bâtiment qui est destiné à la location au profit d'artisans locaux qui sont dans une phase soit de diversification, soit de développement et qui n'ont pas la capacité, dans un premier temps, d'aller construire un bâtiment compte tenu des enjeux économiques que ça porte. Et donc nous, on est là pour faire l'interface, pour faire le relais, normalement temporaire, pour permettre à ces nouveaux artisans de se préparer à un investissement plus lourd. Et donc on est là pour faire de la location à un prix somme toute raisonnable, de façon à ce que le développement se passe bien pour ces artisans, et puis qu'à court terme, ils soient en capacité de s'installer sur notre territoire en construisant un bâtiment.
Ouais, cet artisanat, il fonctionne bien aujourd'hui. On sait que c'est le premier entrepreneur en France, hein, c'est ce qu'on dit souvent, l'artisanat.
Oui,
c'est le premier employeur.
Je confirme le bon fonctionnement et la bonne présence des artisans sur notre territoire. Et d'ailleurs, avec une belle dynamique, puisque depuis 2 ans, on a rempli notre bâtiment, qui peinait il y a 6-7 ans à trouver des candidats. Et là, je dirais qu'on est dans un choix un peu plus compliqué, puisqu'on doit justement choisir et arbitrer, parce qu'on a plus de demandes que de capacité de logement, donc c'est très bien. Mais peut-être qu'il faudra aussi qu'à court terme, on réfléchisse à une deuxième construction d'hôtel d'entreprise.
Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. C'est des vecteurs de développement, quoi.
Oui, effectivement. Bonne dynamique. Effectivement, c'est de la dynamique. J'évoquais tout à l'heure la dynamique au niveau de notre habitat. On a aussi une belle dynamique autour des artisans et du commerce et des commerçants du territoire. Donc là aussi, on se réjouit d'être dans un territoire finalement aux portes de structures et de territoires qui nous permettent de se développer encore plus.
Ouais. Alors, autre création de votre Comcom, c'est l'opération programmée de l'amélioration de l'habitat, parce que vous avez également l'habitat dans vos prérogatives. De quoi s'agit-il ?
Alors, opération programmée d'habitat, un joli terme, mais qui finalement ne reflète qu'un besoin important du territoire, à savoir pouvoir réhabiliter des logements. Oui. On a plusieurs types de logements. On a tout d'abord des logements qui sont occupés par des propriétaires, qui sont dans une période de leur vie où ils ont besoin d'adapter leur logement pour pouvoir avoir une durée de présence dans leur maison un peu plus longue. Donc ça passe par un aménagement, donc aménagement essentiellement de la salle d'eau. Et puis on a aussi une catégorie d'occupants qui ont besoin, pour les raisons encore plus évidentes qu'on traverse en ce moment, de réduire leur facture énergétique. Et donc on travaille aussi à tout ce qui est amélioration de la consommation énergétique, isolation des maisons. Et puis, on a un autre volet autour de cette opération programmée de l'habitat qui est en lien avec les propriétaires, bailleurs et non-loueurs, parce que leur logement, il est dégradé et donc ils ne l'offrent pas à la location. Et on a aussi une action forte dans cette direction de façon à ouvrir de nouveaux logements à la location, parce que il est bien évident que sur un territoire, on a aussi des gens qui ont besoin d'avoir des logements pour pouvoir les occuper, mais à titre locatif. Oui. Et donc, voilà un petit peu les différents volets de cette OPA.
Oui, l'accès à la propriété, ça reste encore le rêve de beaucoup, mais un rêve qui s'éloigne pour certains. Est-ce qu'on parle beaucoup aussi de paupérisation dans certaines zones rurales de France ? Est-ce que cette nouvelle pauvreté, elle existe aussi au sein de votre communauté de communes ?
Alors malheureusement, oui, on a effectivement quelques secteurs où on a des difficultés, je dirais, à faire en sorte que la conciliation entre celui qui cherche un logement et puis celui qui a envie de le louer, ça peut être un peu compliqué en termes de conciliation des deux parties. Et puis, on est aussi sur un territoire qui offre quand même un petit peu de logement qui provient des bailleurs sociaux, ce qui permet d'avoir une certaine offre différenciée. Mais évidemment, on est sur un territoire où on a besoin de trouver les logements qui vont bien pour un milieu qui, pour partie aussi, peut être un petit peu défavorisé.
Ouais. Alors par contre, et là je dis bravo, alléluia, tout ce que vous voudrez, il y a sur votre territoire trois maisons interdisciplinaires de santé. On est pourtant dans un territoire qu'on appelle un désert rural, un désert médical, mais là vous avez quand même de l'offre, hein, parce que pour chaque maison pluridisciplinaire, bah, il y a le généraliste, il y a le cabinet d'infirmière, il y a tout ce qu'il faut. Hein. C'est pas mal.
Alors vous faites bien de le noter parce que vous avez aussi lu l'actualité et le département de Eure-et-Loir est pas dans les départements les mieux pourvus, mais ça fait bien longtemps maintenant que notre communauté de communes a pris ce sujet à bras-le-corps et a commencé à réhabiliter et à offrir des maisons de santé sur le territoire. Donc on en a trois, comme vous le signalez, donc on a Fontaine-l'Aiguillon, maison de santé qui est complète depuis pas mal de mois, et on ne peut plus y accueillir de professionnels de santé, donc il est occupé notamment par deux médecins généralistes. On a la maison de santé de Courville-sur-Eure, pour laquelle, là aussi, deux médecins généralistes, mais avec un local qui reste disponible, puisqu'on rencontre aujourd'hui sur Courville-sur-Eure un déficit de dentistes, les deux derniers dentistes ayant cessé leur fonction pour cause de retraite le mois dernier. Et puis la maison de santé d'Illiers-Combray, qui elle est en fin de réhabilitation, où là encore nous avons deux médecins généralistes qui l'occupent, et on peut encore accueillir quelques autres professionnels de santé, je dirais, pour parfaire un petit peu l'occupation. Néanmoins, même avec ces médecins généralistes qui occupent ces maisons de santé pluridisciplinaires, on reste en déficit de médecins généralistes, donc on essaie de faire le nécessaire, mais nous ne sommes pas le seul territoire.
Comment les attirer ? Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a une guerre qui se livre dans les territoires pour attirer les généralistes. J'ai vu un reportage à la télévision ce week-end. On est parfois obligé de leur proposer des offres, mais mirobolantes. Hein.
Vous faites bien d'appuyer un petit peu sur ce point qui, malheureusement, est un réel point d'achoppement entre les différents territoires. On a rencontré, il y a un an maintenant, un jeune médecin qui était tout à fait favorable à venir chez nous. Et on s'est heurté à une différence de traitement parce que il pouvait intégrer le chef-lieu juste d'à côté, qui, lui, est en ZRR, c'est un peu technique comme terme, zone de revitalisation rurale, qui lui permet notamment de pouvoir bénéficier d'économies d'impôts sur les 5 années à venir de plus de 50%. Et donc la différence, à un moment, elle se fait aussi au travers des accompagnements différents ou des avantages différents que produit l'État. Donc je le regrette
parce
beaucoup.
Que c'est une mise en concurrence des territoires, alors qu'il va y avoir une harmonisation dans des...
Effectivement, peut-être qu'il faut revoir la façon dont on peut occuper un territoire. Je n'ai pas de conseils ou d'orientation à donner. Il y a des élus bien plus grands que moi qui s'occupent de ces problématiques-là. Je crois qu'on pourrait quand même avoir en exemple un petit peu le mode de fonctionnement autour des pharmacies, où on ne peut pas avoir une pharmacie à plus de... Enfin, quand on n'a pas 2500 habitants. Et puis d'avoir un petit peu des représentations et des abondements de pharmacie en fonction de ces critères habitants. Peut-être que ça pourrait être un critère pour les médecins, j'en sais rien, je ne suis pas là pour arbitrer, mais en tout cas, la situation actuelle, elle n'est pas satisfaisante, je crois, pour pas beaucoup de secteurs. Et puis, il faut certainement rendre aussi le métier ou l'exercice de la médecine libérale plus attractive, puisque malheureusement on constate qu'en sortie d'école sont à peine 10% des médecins formés et diplômés qui acceptent de s'orienter vers le libéral. Donc c'est pas le tout de produire ou de fabriquer de nouveaux médecins, mais s'ils sont pas attirés par le libéral, alors certes c'est très bien, ça va pourvoir les déficits aussi dans les hôpitaux, mais ça va pas servir les territoires ruraux et nos patients.
Voilà un beau chantier en perspective pour le ministère.
Oui, je confirme.
Il nous reste quelques petites minutes. Je voudrais qu'on termine avec un sourire, on va dire, ou sur un sourire, avec le tourisme, qui de toute façon fait partie intégrante du développement économique dans tous nos territoires. Or, eh bien, la communauté de communes entre Beauce et Perche a dans son jeu plus d'un atout cœur. La maison de tante Léonie Allier-Combray, le château de Sully à Villebon, l'héritage de la famille Allier à Pongouin. Bah, vous êtes plutôt bien pourvu pour développer le tourisme, non ?
Alors, je pense, mais vous faites bien de rappeler aussi que finalement, l'exercice de la compétence tourisme, c'est du développement économique pour le territoire. Peut-être que dans votre liste, vous avez omis de parler aussi du canal Louis XIV.
Ah oui, le canal Louis XIV, bien sûr. Ouais.
Mais si je reprends effectivement les éléments peut-être un peu plus en avant sur notre territoire, oui, nous sommes dotés aussi bien de ce qui peut se faire autour de Pongouin sur la fondation d'Aligre ou le château de Villebon. Mais bien évidemment, notre moteur, ça reste Proust. On remercie d'ailleurs le conseil départemental d'avoir engagé les travaux importants de rénovation et de mise à niveau du musée Marcel Proust, qui va pouvoir ouvrir ses portes mi-2023, de façon à redynamiser cet accueil de Proust. Aujourd'hui, la transition, elle se fait au travers d'un musée éphémère sur la commune d'Illiers-Combray, et c'est très bien. Mais nous profitons de cette aubaine et de cette ouverture, je dirais, sur le monde entier quand on parle de Proust. Parce que évidemment, Proust est largement plus connu en dehors de nos frontières ou de nos territoires métropole pour faire venir ou pour animer bon nombre d'étrangers bien lointains.
C'est une star mondiale, oui. Merci beaucoup Philippe Schmitt. Je rappelle que vous êtes donc maire du Thieulin, président de la communauté de communes entre Beauce et Perche. Juste une dernière question, est-ce que c'est dur d'être maire ou président de communauté de communes ? On sait que c'est de plus en plus difficile d'être un élu local. Il y a même des communes où c'est difficile de trouver un maire. Ça va, vous avez encore à la fois la foi et les épaules.
Alors, sur le ton de la boutade, je répondrai, et je n'ai pas l'habitude de me plaindre, en tout cas sur ce type de fonction occupée. Ça reste des fonctions pour lesquelles nous sommes volontaires ou pas. Donc, bien évidemment, si on les occupe, c'est qu'à un moment, on a levé la main pour pouvoir se faire élire. Donc oui, moi, j'ai un peu la foi. Oui, je crois encore à ces fonctions d'élu et à leur importance. Et je regrette que certaines communes aient des difficultés à pouvoir trouver des remplaçants. Certes, c'est pas facile tous les jours, mais ça reste très motivant, très intéressant. Et puis, je crois que le principal sujet, c'est d'apporter le service à nos habitants.
Merci beaucoup. Merci à Simon Martin en régie technique. Et chers auditeurs et auditrices, je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur www.radiorentiel.fr. À tout bientôt.